d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, avec l'émission Mode d'emploi, avec ce soir des journalistes du PIAF et des militants de ATTAC.
Et nous recevons ce soir Philippe Furini du réseau Migre Europe qui va nous parler, en sortant de l'actualité, de la réalité des émigrés, de la réalité de l'immigration à nos frontières et de leur accueil. Mais nous allons commencer, comme d'habitude, par les chroniques d'actualité de JMJ. Et l'actualité, ce n'est pas que les drames que nous avons connus depuis trois jours, c'est aussi, par exemple, les drames shakespeariens. To be or not to be.
Alors, to be or not to be.
To be or not to be, pardon.
Alors, c'est de l'actualité qui date quand même d'il y a une semaine, mais c'était drôle, donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée, pour remonter le moral, d'en parler un peu. Les médecins ont fait grève, c'est rare que les médecins fassent grève, du moins les médecins libéraux, parce que les urgentistes, on a l'habitude, ce sont d'affreux fonctionnaires, donc ils font grève. Les médecins libéraux ont donc fait grève. Ils ont fait grève entre le 24 décembre et le 31 décembre. Pour bien montrer leur désaccord avec la loi de Marisol Touraine et avec notamment l'une des dispositions de cette loi, à savoir la généralisation du tiers payant. Qu'est-ce que c'est que le tiers payant ? C'est le fait que les gens n'avancent plus les frais, ils ne payent plus le médecin. C'est directement la carte vitale qui enregistre la transaction et le médecin est payé par la sécurité sociale et pour le complément par les mutuelles. Alors, premier acte de ce mouvement de grogne des médecins, puisque tous les mouvements sociaux sont des mouvements de grogne, on le sait bien avec la presse actuelle, c'est un choix vraiment très intéressant de date. Pourquoi ont-ils choisi cette date ? Des mauvais esprits ont dit qu'ils s'étaient appuyés sur les chiffres des syndicats de médecins, puisque d'après les syndicats de médecins, entre le 24 décembre et le 1er janvier, c'est à peu près 70% des cabinets qui sont fermés d'ordinaire. Et là, la grève a réuni 70% de cabinets fermés. C'est pour ça que certaines mauvaises langues, qui sont vraiment des gens mal pensants et malfaisants, ont dit que les médecins s'étaient fait une grève Courchevel. Mais bon, ce sont des mal pensants.
Ils sont quand même à leur compte, donc ils font ce qu'ils veulent quand même.
Oui, mais enfin, en ce qui concerne le taux de grévistes, c'est un petit peu comme faire grève le 15 août pour des profs. On pourrait arriver à 100% de grève dans l'éducation nationale comme ça. Alors, deuxième acte, la grève serait de nature à défendre les patients et à améliorer la qualité des soins, parce que si jamais les mesures prévues par Marisol Touraine passaient, eh bien, ça pourrait franchement être mauvais pour la santé des Français. Alors j'ai été m'enseigner un petit peu, j'ai écouté à droite à gauche, lu à droite à gauche, et en complément d'information, j'ai été interviewer mon toubib. Et là, c'est marrant, mais on arrive à quelque chose qui n'est plus tout à fait la parole des syndicats de médecins. En quoi le tiers payant pourrait-il diminuer la qualité des soins ? En rien du tout. Puisque les gens vont chez le médecin, c'est le même médecin, ce sont les mêmes soins, les mêmes ordonnances. Alors quel est le problème réel pour les syndicats de médecins ? C'est qu'ils disent que ça pourrait ralentir leur paiement. C'est ça qui les emmerde en fait, c'est qu'ils risqueraient d'être payés après. En fait, c'est pas tout à fait sûr parce que ça se ferait de manière informatique. Et de manière informatique, par rapport au fait d'aller déposer de l'argent à la banque ou des chèques, ça va pas forcément plus lentement. Alors, on creuse un petit peu et on cherche où est le problème réel. Pourquoi tous les syndicats de médecins sont vent debout ? Eh bien, en fait, parce que les syndicats de médecins sont tenus en grande partie par les spécialistes et les spécialistes ont beaucoup de dépassements d'honoraires. Et le problème des dépassements d'honoraires, c'est que jusque-là, ils passaient comme une lettre à la poste, parce que pour beaucoup, on payait la consultation et les frais et les honoraires supplémentaires en même temps, et on se faisait rembourser après. Donc finalement, on voyait pas trop le dépassement d'honoraires. Tandis que là, avec le système de Marisol Touraine, on va payer rien du tout pour la consultation. Et on va payer que le dépassement d'honoraires au médecin. Et donc là, ça commence à se voir. Et ça fait un peu caricatural parce que dans un certain nombre de cas, les gens vont se rendre compte qu'ils payent autant de dépassements que de consultations. Et ceci explique cela, pourquoi un certain nombre de syndicats de médecins qui d'habitude sont très très mous se réveillent. Troisième acte, les revenus des médecins seraient insuffisants. À 23 euros la consultation, sachant qu'une consultation toujours de source syndicale dure de 10 à 30 minutes, que les médecins travaillent pour la plupart 10 heures par jour, on peut douter du fait qu'ils sont économiquement faibles. et que les médecins soient les crèves la faim. Eh bien, en fait, d'autant moins que depuis 2 ans, et ça, c'est pas très connu, c'est mon médecin qui me l'a souligné, qui me l'a expliqué, les médecins touchent 5 euros de prime par patient dont ils sont le médecin traitant, de la part de la Sécurité sociale, qu'il le voit ou qu'il le voit pas. Si quelqu'un se déclare un médecin traitant et qu'il ne va pas le voir pendant 5 ans, le Toubib touche quand même ses 5 euros par an pour ce patient. Et par exemple, un médecin parisien, un petit cabinet de rien du tout comme celui dans lequel je vais, elle m'a dit très clairement et sans ambiguïté qu'elle avait 1200 patients dont elle était le médecin traitant. Donc ça fait un petit 13e mois de 6000 euros. Et c'est pas une acharnée du boulot, elle travaille 4 jours par semaine parce qu'elle a envie de s'occuper de ses enfants. Donc pour des acharnés du boulot, ça peut monter à 10 000 euros par an sans aucun problème. Alors réclamer des augmentations, je pense qu'il y a peut-être d'autres corporations qui sont un peu plus prioritaires.
Ah Jean-Marc, tu es quand même méchant avec ton médecin. Je parais en plus que tu étais allé le voir pour soigner ton rhume, bien entendu.
Bah oui, évidemment.
Évidemment. Alors on enchaîne et là on revient à l'actualité que nous avons tous en tête et on va parler de Charlie.
Alors je commence, allô papa tango Charlie, et évidemment je ne vais pas vous chanter, même si j'ai une très très belle voix, Mort Schumann. Le prénom de Mort Schumann était pourtant adapté à la situation, et le nom de sa chanson aussi. Alors allô papa tango Charlie, malheureusement Charlie est un peu sorti des écrans radars depuis 2 jours. Merci aux 2 connards, ou 3 connards, on ne sait pas, qui ont commis les actes, quels que soient les commanditaires derrière, ça fait toujours plaisir. Alors, je ne vais pas vous dire « je suis Charlie ». En 2 jours, ce slogan est déjà devenu réchauffé. Et comme il s'agit de parler de viande froide, je pense que j'hésite. En tout cas, ça ne sert à rien de décrire notre peine, notre indignation. Il y a des milliers de gens qui l'ont fait et qui le font sans doute mieux que moi, qui larmoient sur toutes les télévisions. Et en plus, je crois que ça aurait fait chier nos combattants de la plume, de la gomme et du crayon réunis, qu'étaient les journalistes et les caricaturistes de Charlie Hebdo, qui n'étaient pas franchement dans ce genre de pathos. Par contre, en guise d'hommage, on peut tenter de se marrer avec le plus ignoble, ce qui s'est passé, ce qui a l'avantage d'être sympathique, mais aussi de lutter contre notre rage, l'envie de pleurer ou de vomir, surtout quand on est dans un petit studio de radio, c'est pas très sympa pour les autres. Parce qu'il y a quand même des choses drôles dans tout ça. Entendre Le Pen, père et fille, surtout, s'exprimer sur la liberté de la presse, connaissant les antécédents de Papa Le Pen en Algérie, par exemple, et pleurer sur Charlie quand on se rappelle des dessins de Cabu et de Charb, ça fait marrer. Ça fait marrer, surtout que le Front National a intenté X procès à Charlie Hebdo, et que Charlie Hebdo, avant même d'être menacé par les terroristes islamistes, a été de nombreuses fois menacé par l'extrême droite, avec des menaces de mort à répétition, qui venaient de groupuscules, bien sûr jamais le Front National, mais comme par hasard des groupuscules liés au Front National. Entendre plein de gens qui ont critiqué Charlie Hebdo, notamment dans l'histoire des caricatures de Mahomet à l'époque, des gens qui ont tenté d'interdire Charlie Hebdo à répétition, et ces gens-là maintenant pleurent. Ça fait rire. Notre-Dame qui sonne pour des anards bouffeurs de curés, je pense qu'ils doivent rigoler au paradis du crayon. Les polémiques à 2 balles de Kalachnikov, bien sûr, sur la participation du Front National à la manif de dimanche. Là aussi, ça fait un peu rire jaune, compte tenu des antécédents et des rapports très tendus entre le Front National et Charlie Hebdo que j'ai cité avant, compte tenu du fait que le Front National n'est pas vraiment un parti républicain. C'est un peu comme la visite recueillie de néo-nazis au mémorial de la Shoah. C'est un côté farce et on se demande bien pourquoi certaines personnes s'interrogent sur la volonté de ne pas avoir le FN dans la manif. Alors, après ça, il y a tout le côté officiel. Et là aussi, c'est très drôle pour des anards. Un petit effort, et si ça continue, les pouvoirs publics vont leur proposer la Légion d'honneur à titre posthume. Et contrairement à Piketty, comme ils sont morts, ils ne pourront pas la refuser. On peut espérer que les familles vont le faire pour eux. Le Panthéon, ouais, c'est possible. Pourquoi pas, hein, ce ne serait pas les pires au Panthéon. Mais pour des anards, encore une fois, ça fait rigoler. Tout ça est vraiment drôle, mais il y a encore plus drôle dans l'actualité internationale. Cette fois, c'est qu'il y a un milliardaire indien musulman, évidemment, qui propose une prise de 7 millions. Alors pourquoi 7 millions, c'est pas aux assassins pour les féliciter. C'est dommage, ils ont été butés aujourd'hui, ils vont pas pouvoir bénéficier de ça. Ils ont joué au loto toute leur vie, et le jour de toucher le gros lot, ils se sont fait descendre par le GIGN. Pas de chance. Pour finir, je vais faire une proposition, puisque tout le monde fait des propositions en ce moment autour de Charlie Hebdo et de son avenir. C'est d'enterrer les victimes de Charlie Hebdo au Mont Valérien ou au mur des fédérés. Au moins, contrairement au Panthéon ou à la Légion d'honneur, ça aurait un sens, puisque là, il serait enterré au milieu de résistants fusillés par des nazis, c'est un peu ce qui leur est arrivé, ou au milieu de libertaires tués par des réactionnaires pendant la Commune.
Alors on va continuer de larmoyer un peu en écoutant Mano Solo, qui était le fils de Cabu, et qui chantait en chanson testament « Je suis venu vous voir ».
Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de ATTAC.
Et nous recevons ce soir Filippo Furi de Migre Europe. Alors Migre Europe, c'est un réseau européen et africain, un réseau qui rassemble des militants et des chercheurs, avec pour objectif de faire connaître, et puis aussi de lutter, contre la généralisation de l'enfermement des étrangers, la construction des camps en Europe. Et leur surnom, pour bien les comprendre, c'est tout simplement l'Observatoire des frontières. Et ils essayent de nous dire ce qui peut se passer à ces frontières où on voit malheureusement une actualité où il y a bien plus de morts que ce qu'il y a eu cette semaine à Paris. Alors, Filippo Furi, membre du réseau.
Bonsoir à tout le monde et merci pour votre invitation.
Et merci d'être là. Donc, tu as beaucoup travaillé sur la notion de frontière et principalement sur la frontière adriatique, donc frontière italienne.
Tout à fait.
Qui est traversée par différentes époques par des Albanais, aujourd'hui par beaucoup de Syriens et d'Érythréens. Travailler sur le contrôle migratoire, tu es aussi anthropologue.
Oui.
Et travailler principalement sur l'accueil des demandeurs d'asile en Italie.
En Italie, et spécialement dans la ville de Venise. Pour entrer en matière directement, je voulais juste vous présenter ce qui s'est passé dans les dernières semaines, justement sur la frontière adriatique. Tout part d'un ferry de la compagnie ANEC, le Norman Atlantic, qui prend feu au large de Corfou. C'est un ferry qui transporte des passagers, des Grecs, des Turcs en voyage, des camions, etc. Et l'incendie met en évidence le fait que, comme ça se passait et ça se passe continuellement, sous ces cargos, il y avait aussi des personnes cachées, des migrants cachés, qui figurent parmi les disparus. Or, cet fait est suivi, c'est un fait, disons, normal. C'est un peu la norme. Nous, à Migre Europe, on a dédié un rapport en 2009-2010 à cette question de la frontière adriatique, et en montrant comment les contrôles à Patra... Il y avait énormément de personnes, et c'était surtout des Afghans à ce moment-là, qui essayaient de passer la frontière grecque-italienne à travers ces ferries. Mais ça, c'est la norme. Il y a aussi le jour suivant, quoi que ça puisse sembler bizarre, mais le jour suivant, vous avez un cargo avec environ 1000 migrants à bord qui est intercepté au large des côtes de Corfou, qui était apparemment dirigé vers la Croatie, mais qui a été, si vous voulez, abandonné par les personnes qui les pilotaient, qui ont bloqué les timons et qui l'ont adressé vers la côte italienne. Et du coup, il y a eu un sauvetage d'émergence de ces personnes qui a occupé la marine militaire, qui a dû intervenir pour bloquer les moteurs de ces bateaux avant qu'ils s'écrasent contre les côtes italiennes. Alors, il faut dire que c'est quelque chose d'exceptionnel, soit par la dimension, le nombre de personnes qui étaient à bord, soit parce que ça n'arrive pas souvent de voir des cargos. Mais il faut dire aussi que depuis les dernières deux mois, c'est le troisième cargo qui est intercepté dans ces conditions. Ce qui veut dire que, disons, que les modalités d'arrivée des migrants sur les côtes italiennes en particulier est en train de changer. Alors il faut préciser aussi que c'est des méthodes qui ne sont pas nouveaux. Quelqu'un d'entre vous se rappellera qu'en 1997, il y a un cargo d'Albanais qui sont arrivés sur Abari, donc le cargo s'appelait Vlora. Il y avait 1223 Albanais sur le bateau. Et il y a eu une série de cas comme celui-là, à Otranto en 2000, en Sicile en 2002. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui n'est pas en première des chroniques, mais qui est fréquent. Juste pour vous ponctualiser que si on regarde qui sont les personnes qui sont à bord de ces cargos, ben c'était des Albanais en 99, c'était des Kurdes vers les années 2000, et maintenant c'est des Syriens. Voilà. Donc c'est quelque chose qui nous oblige à questionner. Mais bien sûr, il y a une criminalisation des passeurs parce qu'ils disent ils n'ont aucune scrupule, ils vont lancer ces personnes contre les côtes italiennes sans se faire aucun problème. Il faut dire aussi que ça, c'est une réaction, c'est dû aussi à la déresponsabilisation des institutions européennes qui refusent de donner l'accueil à ces personnes. Pour vous donner quelques chiffres, les 15% des 3,8 millions de réfugiés syriens se situent actuellement en Irak, en Jordanie, en Égypte, au Liban et en Turquie. La France n'a accueilli que 1000 personnes, 1000 Syriens cette année. Et dont 320 dans les cadres d'une procédure de réinstallation. C'est-à-dire que c'est des nombres infimes. C'est rien. Voilà, donc, je crois que ça peut, pour vous donner une idée de la situation, il faut quand même qu'on commence à réfléchir sur les responsabilités aussi, comme je disais, des politiques européennes, des pays européens, et pas viser que cette...
D'autant qu'on pense à tous ceux qui ont pu arriver et tous ceux qui sont restés au fond de la Méditerranée. J'ai cru lire 3500 morts au fond de la Méditerranée sur l'année 2014. Il y a aussi une explosion cette année 2014 du nombre d'entrées en Europe. On est passé de... C'est des chiffres, je ne sais plus de quel ordre, mais de 60 000 à peu près les années passées. On est monté à 200 000 cette année aux portes de l'Europe, principalement dû au conflit en Syrie, bien sûr, au conflit en Érythrée, des gens qui ont passé à travers des fois 4 ou 5 pays où à chaque fois il leur est arrivé des histoires bien tristes pour arriver aux portes de l'Europe, pour se faire mettre dans un cargo.
Dans des cargos, là on a focalisé notre attention sur les cargos, mais on pense à Lampedusa, on pense à Ceuta et Melilla, genre, tout le long de la frontière européenne, il y a de la forteresse Europe, comme on l'appelle, il y a des situations de détention, il y a des milliers de personnes qui essaient de rentrer et que se retrouvent face à un mur, un véritable mur qui fait pas directement des victimes, mais qui, disons, n'aide pas à aider ces personnes qui ne sont que bon, qui ne sont qu'un élément d'aide, parce que si on pense aux Syriens, on ne peut pas ne pas prendre en compte la situation de départ.
Et pourtant, la réalité de l'immigré en situation régulière en Europe, c'est souvent des expulsions. Et on va écouter Tête Raide, Expulsez-moi.
Je suis un sans-papier, expulsez-moi. Je suis un ouvrier.
Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de Attaque.
Et nous continuons d'écouter avec plaisir Filippo Furini, Fury, je connais quelqu'un qui s'appelle Furini, pardon. Filippo Fury qui vient nous parler d'immigration au nom du réseau Migre Europe. Et on a parlé d'actualité, la triste actualité d'arrivée des immigrés sur les côtes adriatiques, par exemple, par cargo de plus de 1000 personnes. Et toute cette arrivée a mis en place, évidemment, pour sauver ces bateaux. On n'est quand même pas des monstres, hein. On met des sauveteurs pour sauver tous ces naufragés. Mais ces sauveteurs sont aussi, et bien souvent, des policiers.
On pourrait mettre en place une rotation, c'est-à-dire virer les connards qu'on a en France et prendre des immigrés en échange. Parce qu'on a un paquet de connards, donc...
Oui, on en a aussi qui sont inexpulsables, parce qu'ils sont déjà hommes politiques, quoi, c'est ça?
Ouais, non, bah,
bon,
ouais.
Ok. Alors, revenons à notre thème, hein, où on essayait de mettre en parallèle, finalement, les efforts européens pour sauver les bateaux en perdition d'immigrés, mais qui sont aussi là pour les expulser.
disons que c'est une ambiguïté assez centrale, c'est-à-dire le dispositif qu'on peut appeler humanitaire ne peut fonctionner qu'avec son dark side, son contraire,
son pendant,
qui est un dispositif sécuritaire, militaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des tensions évidentes entre par exemple, l'Union européenne et l'Italie. Parce que l'Italie, après la tragédie du 3 et 11 octobre 2013, avait mis en place une opération qui s'appelait Mare Nostrum. Alors, on se passe des analyses idéologiques appelées une opération Mare Nostrum, ça fait penser, mais ça, c'est une petite parenthèse.
Un petit romain fasciste.
Bon, voilà, moi, surtout parce qu'après, il y a eu l'opération Mos Maiorum, qui va exactement dans la même ligne, mais on pourra en parler. Par exemple, Union européenne et Italie se trouvent un peu dans l'intention à ce moment parce que l'opération de Mare Nostrum avait été pensée comme prioritairement humanitaire, c'est-à-dire on essayait de sauver. Alors il y a énormément de polémiques par rapport à cette opération parce qu'il y avait déjà des officiers des ministères de l'Intérieur qui faisaient qui triaient les migrants sur le bateau. Il y avait déjà les dispositifs de contrôle qui étaient en place pendant les opérations de sauvetage, mais l'idée c'était prioritaire, c'était de les sauver à cause d'une montée, une sensibilisation qui était montée pendant après la tragédie. Mare Nostrum est terminée une année après, donc en octobre 2014, et a été pas substitué, mais a été relevé, voilà, un peu, par une opération de l'Union européenne, de l'agence Frontex, qui s'appelle Triton. Or, cette opération a comme but c'est une opération de barrage, donc a comme but premier de contrer les trafics illégaux, dont on parlait tout à l'heure, donc cette criminalisation du passeur, et de bloquer le plus possible l'arrivée, avec des opérations à la limite de menace. C'est-à-dire la présence seule des bateaux et des dispositifs militaires devraient contrer et bloquer et arrêter cette flux migratoire. Or, les chiffres nous disent que ça marche pas très bien parce que, des premiers deux mois de l'opération, il y a eu 16 000 migrants arrivés sur les côtes italiennes, donc une moyenne de 8 000 par mois, qui est exactement la même moyenne qui était celle de Mare Nostrum. Donc, rien n'a changé trop. Et pour vous donner quelques chiffres, du 1er janvier au 27 décembre, sont arrivés par mer en Italie environ 170 000 migrants, dont 120 000 en Sicile. C'est-à-dire que les chiffres sont là, qui nous démontrent que ça soit humanitaire, que ça soit sécuritaire, le problème existe et il faut essayer de réfléchir à d'autres solutions probablement. Je vous évoque aussi une petite tension interne au gouvernement italien parce que les ministères des intérieurs accusent la marine militaire de être trop près des côtes libyennes par exemple ne pas, sachant que c'était la marine italienne qui sauvait les migrants avant, pendant Mare Nostrum, mais de ne pas faire fonctionner les dispositifs des Tritons. Donc il y a un petit souci, qui n'a pas qui ne pose pas que des questions éthiques et pratiques, mais aussi économiques. C'est-à-dire que l'Union européenne a mis à disposition 2 900 000 euros par mois pour couvrir le coût des États membres et les 38% des dépenses italiennes. Or, si Triton ne marchait pas, probablement l'Union européenne va l'arrêter. Et les coûts vont retomber encore une fois sur l'Italie. Donc il y a cette tension qui est un jeu. Je crois que ça nous explique un peu l'évolution de la situation et ça nous pousse à réfléchir aussi sur les opérations d'externalisation.
Donc l'externalisation, c'est-à-dire que c'est même plus la France qui dit à l'Italie de se débrouiller, mais c'est l'Europe entière qui dit n'arrivaient même pas aux frontières.
Mais disons que, cyniquement, si l'Union européenne n'arrive pas à contrer par des problèmes pratiques, par des problèmes réels, concrets, et par des conflits politiques internes, parce que effectivement entre les pays membres il n'y a pas une énorme collaboration, parce qu'il n'y a pas une politique concertée au niveau européen, ben la solution ce n'est que de externaliser, c'est-à-dire de repousser les contrôles migratoires à l'extérieur de l'Union européenne, et donc de déplacer celle qu'on appelle la frontière européenne vers le pays de l'Afrique du Nord, etc. Et un cas, on peut évoquer vite fait le processus de Khartoum, qui est un projet, si vous voulez, de externalisation jusqu'à l'Afrique centrale et à l'accord d'Afrique pour créer des situations de collaboration entre Europe et le pays d'Afrique pour que chaque pays intervienne et travaille pour contrer ces phénomènes, pour qu'ils n'arrivent pas à d'attendre l'Union européenne.
Voilà. Alors, schématiquement, ça veut dire que l'Europe donne de l'argent à un pays d'Afrique du Nord pour qu'elle mette des camps en place chez elle ?
Alors, moi, je vous cite, par exemple, l'Italie dit « La gestion de flux en provenance d'Afrique du Nord ne peut être le seul fait par des opérations humanitaires, comme Mare Nostrum, ou des contrôles aux frontières, comme l'opération des Tritons, mais doit être mise en place même pour ce qui concerne le pays de départ. Alors, qu'est-ce que c'est qui sont les projets qui vont en cette direction? On peut déjà penser que énormément des projets de aide au développement contiennent des clauses, contiennent des petits paragraphes, contiennent des petites contraintes qui obligent le pays en question, qui est censé recevoir l'aide au développement de l'Union européenne, à s'engager à contrôler le départ des migrants ou le transit des migrants dans leur territoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pratiquement, probablement, le financement de formes plus ou moins légales de détention, de rétention, des opérations d'expulsion et des opérations de empêcher, mais même pour lancer un message de peur. Renoncer, ça vaut pas la peine, oui. vous allez vers des risques.
Il y a une dimension cynique sur la baisse du coût, parce que c'est moins cher d'avoir des matons en Afrique du Nord que de les avoir en Europe. Et puis l'autre aspect, c'est que comme on sait que certains de ces régimes ne sont pas franchement démocratiques, les migrants savent que s'ils sont arrêtés au Maroc, par exemple, ils vont être plus maltraités que s'ils sont arrêtés en Italie.
Et moi, je veux dire, ça décline différemment une chose qui était déjà en place. Moi, je pense à l'Italie, à Berlusconi. Je veux dire, Berlusconi, sous le gouvernement Berlusconi et pendant la dictature de Gaddafi en Libye, ben l'Italie a financé énormément, a donné énormément d'argent à la Libye pour qu'elle puisse construire des routes, etc., en échange de des opérations de contrôle et des renfermements qui étaient à la limite, qui dépassaient tranquillement tout ce qui est droits de l'homme, etc., avec des violences inouïes, des non-respect des droits de l'homme éclatants, quoi. Donc ça, c'est une question.
Et je crois que ça fait aussi l'affaire des passeurs, puisque du coup, les prix de passage montent.
Ben, c'est un marché. C'est un marché. Moi, je
pense. Il y a une inflation du prix de passage.
Moi, je pense que pour les cargos, le prix est des 6 000 euros par personne. Pour les cargos qui viennent de Turquie, dont on a parlé tout à l'heure. Mais les prix sont de ces gens-là, de ce niveau-là.
Et d'ailleurs, en prenant ces chiffres, on est tombé des nues. Zebda.
Sur 106.3, fréquence Paris Pluriel, l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de ATTAC.
Et nous continuons de parler avec Fabio Furi du réseau Migre Europe sur l'immigration, on a vu le blocage aux frontières, on a vu la police, on a vu toute la répression. Alors, comment faire autrement ?
Les mots d'ordre utopique, si vous voulez, c'est l'ouverture des frontières, c'est la libre circulation pour tous et pour toutes. Et on y travaille, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion aussi au niveau économique, sociologique, démographique par rapport à une possibilité d'ouverture des frontières. C'est-à-dire qu'est-ce que ça voudrait dire ouvrir les frontières ? Qu'est-ce que ça serait, quoi l'effet de l'ouverture des frontières ? Et on essaie de démontrer qu'effectivement c'est possible, c'est faisable et ça pourrait même résoudre des problèmes. Or, du point de vue pratique, concret, dans l'actualité, la demande, la réponse est un peu plus contraignante, est un peu plus limitée, un peu plus négociée, si vous voulez, mais c'est la demande de visa pour tout le monde, c'est-à-dire que ça soit prioritaire dans les politiques de l'Union européenne qui doivent à ce moment-là être concertées, être collectives, de prendre en charge ces personnes et de réfléchir à des façons de les accueillir qui soient de l'ordre d'une réponse éthique et politique qui à l'encontre d'une idée de fermeture.
Et comment convaincre finalement les Européens de l'intérêt de cette libre circulation ? Parce que pour l'instant, surtout cette semaine, les gens ont certainement en tête fermons.
Mais effectivement, moi j'ai entendu l'ex-ministre des Affaires intérieures italien Maroni qui a dit, première réaction à ce qui s'est passé ici, l'Union européenne doit tout de suite arrêter Schengen. Donc ça c'est la peur, ça c'est la méfiance, ça c'est l'ignorance à la base, ce qu'on essaie de faire, et il y a énormément des chercheurs qui travaillent là-dessus et des militants, de démontrer, ce que je vous disais tout à l'heure, que l'ouverture des frontières pourrait avoir des déclinée d'une certaine façon intelligente, quoi, pourrait permettre à l'économie soit des pays de départ que des pays d'accueil, de s'en sortir, à la limite de passer cette crise qui est faite aussi d'une idée de blocage, d'une idée de peur, d'une idée de fermeture. Donc l'idée de réfléchir à l'ouverture comme mobilité humaine, et donc qui prend en charge soit la question de demandeurs d'asile, donc de les Syriens dans le cas spécifique, mais aussi des travailleurs, de migrants, travailleurs que ils voient de plus en plus leur possibilité d'accéder à l'Europe interdite, bloquée.
Et l'immigration a fait l'Europe, a fait le monde.
Exact.
On ne peut pas l'arrêter. Et on sait que demain, l'Europe aura encore et toujours besoin, de comme tout territoire, d'avoir des croisements, de gens qui viennent travailler, qui viennent consommer, qui viennent, tous les mots économiques que les gens de droite aiment. Et pourtant, ils bloquent ce flux.
Ouais, mais quand je vois le résultat de la pureté ethnique chez les Le Pen, je me dis qu'on peut pas faire de mélange. Parce que Marine est tellement réussie que si on faisait des mélanges, ce serait terrible, quoi.
Alors, nous sommes déjà dans le débat homme-femme, là, si j'ai bien compris. On vient de parler de Marine Le Pen, père et fille, non? Enfin, non, c'est pas ça. C'est pas ça dont tu veux parler, Gaël. Non, Gaël, tu veux parler de l'égalité. De du plafond de verre.
Alors, qu'est-ce que c'est le plafond de verre? Le plafond de verre.
C'est le copain de la pantoufle de verre.
On appelle ça aussi le plancher collant. Le plafond de verre, c'est cet obstacle invisible qu'on observe dans plusieurs milieux professionnels et qui fait obstacle à la carrière des femmes. Alors, on va regarder ça en partant des chiffres de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'intérêt de ce milieu professionnel est double. D'une part, c'est un milieu assez compétitif, ce qui favorise les inégalités hommes-femmes, on va le voir. Et d'autre part, c'est de la fonction publique. Et donc, les gens sont classés précisément dans des corps, des grades, des spécialités numérotées. Et ça, c'est très pratique pour avoir des chiffres très précis. Alors, les chiffres, les voici. Dans les universités, par exemple, il y a 44% de femmes dans le grade le moins élevé des enseignants-chercheurs. On a donc une bonne parité. Mais seulement 10% dans le grade le plus élevé. Au CNRS, il y a une hiérarchie entre les différents corps, entre les chercheurs, les ingénieurs et les techniciens. Les femmes représentent 65% des techniciens, 44% des ingénieurs et seulement 33% des chercheurs, qui est le corps le plus noble. Et à l'intérieur de chacun de ces trois corps, on observe encore des inégalités selon les grades. Chez les chercheurs, par exemple, les femmes ne représentent que 27% des directeurs de recherche, alors qu'elles constituent 37% des chargés de recherche, c'est-à-dire les chercheurs de base. Les inégalités hommes-femmes apparaissent aussi dans la distribution des primes. Ainsi, au CNRS, 23% des chercheurs bénéficiaires de la prime d'excellence scientifique sont des chercheuses, alors que 33% des chercheurs sont des femmes. Alors pourquoi ces inégalités ? Une des explications classiques, c'est la division sexuelle de la répartition du temps entre travail et famille. Globalement, sur l'ensemble des milieux professionnels, les femmes consacrent 39% de leur temps au travail. Alors je pense que c'est 39% du temps éveillé. Et les hommes, 60%. Dans ces conditions, on comprend que les hommes fassent plus carrière que les femmes. Et cet éloignement des femmes de l'investissement professionnel est renforcé par la domination de normes typiquement masculines dans certains milieux professionnels. Ce qui est valorisé, par exemple, c'est la mobilité, l'ambition, le goût du management. Et étonnamment, même au CNRS, les fonctions de management sont survalorisées par rapport à la production elle-même. Et or, ce qu'on observe, c'est que dans les dossiers de promotion, les dossiers de femmes sont forts par leur production, alors que les dossiers d'hommes sont forts par l'occupation de fonctions de direction. Alors, il est assez difficile dans chaque entreprise, dans chaque administration, de lutter contre ces facteurs d'inégalité, qui sont des données sociales lourdes, conditionnées par l'éducation et par la culture. En revanche, si on revient aux chiffres, on peut entrevoir des pistes locales. Je reprends l'exemple du CNRS. Le CNRS est divisé en plusieurs instituts thématiques, avec des proportions de femmes très variables. Ça va de 45% en sciences humaines et sociales à 17% en maths. Et on observe que dans les instituts où les femmes sont nombreuses, comme en sciences humaines et sociales, 37% des chercheuses sont directrices, alors que dans les autres instituts, seulement 20% des chercheuses sont directrices. C'est-à-dire que dans un milieu professionnel paritaire, les femmes ont plus de chances de progresser dans leur carrière. Ça, c'est un phénomène qui a été démontré par les sociologues. Dans les milieux masculins, les hommes ont tendance à promouvoir des hommes, tandis que des jurys mixtes promeuvent indifféremment, des hommes et des femmes. Et donc là, il y a une piste, c'est l'instauration prochaine de quotas de femmes dans les jurys de la fonction publique qui pourront aider à éroder le fameux plafond de verre.
Un problème. Ben, je dis le vrai problème, il est en CEI.
Si on commence comme ça, on finit par trouver que la seule chose importante, c'est d'avoir acheté des beignets framboises à la place des beignets à la pomme.
C'est une bonne pensée.
Bon. Alors nous allons continuer dans l'égalité, vu que Magali a maintenant 3 minutes pour nous faire sa chronique sur l'inénarrable Monsieur Macron.
Oui, je voulais vous parler de cette fameuse loi Macron, loi dite pour la croissance et l'activité, présentée le 10 décembre en Conseil des ministres et qui sera discutée au Parlement à partir du 26 janvier. Donc au commencement de la loi Macron était une saine intention, puisque l'ancien ministre Arnaud Montebourg avait l'intention de s'attaquer aux rentes des 37 professions réglementées afin de, je cite, « restituer 6 milliards d'euros de pouvoir d'achat aux Français ». Depuis, le discours a un petit peu changé. On parle de compétitivité, de volonté de réforme, etc. Au final, on a une loi fourre-tout. Alors, je cite, en vrac, assouplissement du travail le dimanche et la nuit, profession réglementée, développement de l'épargne salariale, une réforme inquiétante de la justice prud'homale, et puis, par exemple, la libéralisation des transports en autocar, dont le bilan environnemental sera certainement plus que discutable, puisque le transport routier émet beaucoup plus de gaz à effet de serre que le train, et le car risque de se retrouver, d'être le principal concurrent du train. Donc cette loi, elle témoigne finalement d'une absence totale de vision à long terme, d'un projet pour le pays. Une loi qui, finalement, est censée libérer la croissance et l'activité dans la droite ligne du pacte de responsabilité et de la baisse des dépenses publiques. Même certains députés socialistes s'interrogent sur la cohérence de la loi, à l'image de Karine Berger qui a dit, je cite, « Nous n'arriverons pas à comprendre la cohérence de ce projet et où cette loi veut nous amener ». Alors nous, la cohérence, on a aussi beaucoup de mal. Là où la loi veut nous emmener, par contre, on peut avoir une petite idée, parce qu'il y a malgré tout un fil rouge, un point commun à l'ensemble de ce catalogue de mesures, c'est de vouloir faire sauter quelques barrières supplémentaires, celles qui protègent les salariés contre les ravages du néolibéralisme, comme les réglementations sociales et environnementales. Alors ces barrières sont bien évidemment présentées comme des rigidités, et leur destruction comme une façon de libérer la croissance. La sémantique est essentielle. Jamais par contre on ne parle de libérer les salariés des rigidités du patronat.
Alors,
Bien entendu, qu'un gouvernement socialiste s'attelle à cette tâche de déréglementation en pataugeant dans ses contradictions idéologiques, c'est pas une nouveauté. Le socialiste, en 2015, il est convaincu, toujours, que la croissance est la solution à tous les maux. Et comme le carcan européen contraint très sérieusement les déficits publics, cette relance de la croissance peut difficilement passer par les investissements publics. Donc, dans la tête du socialiste, la seule solution pour la stimuler est de laisser plus de liberté à l'entreprise. Voilà comment un gouvernement socialiste en vient à ne porter aucun projet alternatif à la droite. Le pire, c'est que l'impact sur cette fameuse croissance risque d'être vraiment ridicule. Le collègue Xavier Timbaud, pardon, de l'OFCE souligne même que la loi Macron soulève de nombreux tabous, mais son impact sur la croissance risque d'être anecdotique, dit-il. Alors bon, elle permettra au moins, cette loi, de faire dire aux successeurs de Macron qu'il faut aller plus loin, plus vite dans la libéralisation du marché du travail. Parce que le MEDEF, lui, il a un vrai projet pour la France. Alors c'est sûr, dans ce concert d'hypocrisie et d'incompétence, on peut dire que la voix de l'économiste Bernard Maris, qui dénonçait ces socialistes devenus gestionnaires et qui a été sauvagement assassiné dans les locaux de Charlie Hebdo mercredi, va vraiment cruellement nous manquer.
Et oui, toujours les économistes comme Macron qui, finalement, personne ne veut les buter, quoi. Enfin, si. Non. Mais regardez-moi pas comme ça.
En même temps, moi, je ferais la taille de Valls, je serais obsédé par la croissance.
Oui, d'accord. Alors, on attaque sur l'agenda et tous ceux qui veulent nous venir autour de la table. Et nous attaquons par le samedi 10 janvier, c'est-à-dire demain. Les 40 ans de la loi Veil étaient cette semaine, vu que l'anniversaire était le 7 janvier 1975. Et à l'hôpital Tenon, demain à 11h, il y a une distribution festive qui annoncera aussi un grand débat le 25 janvier suivant.
Samedi 10 janvier à 13h, place du Châtelet, un rassemblement en solidarité avec la Palestine pour témoigner le soutien des Français à la cause palestinienne.
Alors, soirée On nous cache tout, de l'air à France Inter, lundi 12 janvier 2015 à 19h à la Bourse du Travail de Paris 3 rue du Château d'Eau, le taffetas, la ferme des 1000 vaches, les accidents du travail, l'utilisation du CICE, etc. Avec donc Daniel Simonet, Aurélie Trouvé, Gérard Mordillat, Gérard Filoche, Frédéric Lordon et Serge Halimi.
Le lundi 12 janvier à 20h au cinéma Lucernaire, rue Notre-Dame-des-Champs, la projection débat autour du film Pôle emploi ne quittez pas, un film de Philippe Nora avec suivi d'un débat avec Didier Demazière, sociologue.
La conférence Utopia avec l'âge des low-tech pour permettre la fin au mythe de la croissance verte aura lieu le mardi 13 janvier à 18h45 à la Maison des sciences économiques de Paris 1, sans doute boire l'hôpital à Paris. Et ça sera en présence de Philippe Biouix, ingénieur spécialiste de la finitude des ressources minières.
Alors, débat, le travail est-il contre nature? Mardi 13 janvier 2015 à 19h, bar-restaurant Le Lieu-dit 6 rue Sorbier. Le syndicalisme est-il nécessairement productiviste? Doit-on sacrifier l'environnement à l'emploi ou l'inverse? Quelles sont les forces militantes capables de renverser le système actuel? Avec Thierry Lepan, non je déconne, Annick Coupé, Bernard Sincy de Sud et de CGT, Romain Feli et voilà.
Un cinéma débat d'attaque Paris 12e, La petite dette qui monte, c'est le mercredi 14 janvier à 19h au café associatif La Commune, 3 rue d'Aligre, autour d'un film de Nathalie Loubert.
Et dans la continuité de notre interview du jour, quelle politique migratoire pour la France? Ce sera un débat avec les économistes atterrés, mercredi 14 janvier à 20h15 à la salle Bruxelles de la FIAB Jean Monnet, rue Cabanis. Nous enchaînons avec Stop Tafta à Trappes, Gaël.
Eh oui, à Trappes, il se passe des choses. C'est le mercredi 14 janvier à 20h30 à la Maison des Familles 21 rue Jean Zay. Le collectif Stop Tafta invite Frédéric Vial pour s'informer sur ce traité de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis.
Moi, je trouve que passer le Tafta à la Trappes, c'est une bonne idée. Cercle de silence de la Défense, jeudi 15 janvier à 12h15. Grande Arche de la Défense entre le CNIT et les Quatre Temps.
Projection débat des étrangers dans la ville au cinéma Paul-Éluard à Choisy-le-Roi le jeudi 15 janvier. Ça sera suivi d'un bonus spécifique sur l'accueil des Roms à Choisy-le-Roi. Et on termine avec une conférence débat Les usurpateurs en thème avec le livre de Suzanne Georges, mercredi 21 janvier au Café de l'Horloge, grande rue de Juvisy-sur-Orge. Et on oubliait quand même le samedi 24 janvier.
Alors, vu l'actualité, c'est particulièrement important. Donc, soirée de soutien aux médias libres, la Maison de l'Arbre, 9 rue François de Berg à Montreuil, avec Paris Lune Info, au fond du près du radiateur, l'actu des luttes, Sound System. Voilà, voilà.
Et on oubliait qu'il y aura une journée d'action contre la loi Macron autour du vote, c'est-à-dire le 21 janvier et aussi le 26 janvier, une série de grèves et de manifestations auront lieu, pour rebondir sur la chronique de Magali. Ce qui termine notre agenda et notre émission, on remercie notre invité Filippo Furi d'avoir participé.
Merci à vous.
Et nos chroniqueurs Jean-Marc, Magali, Gaël et à la technique Claude. Et nous finissons en écoutant un chanteur italien décédé cette semaine, qui s'appelait Pino Daniele Gente di Frontera.